fait marcher dans la vie ?
Waouh, c'est une immense question. Qu'est-ce qui me fait marcher dans la vie ? La découverte, voilà. La découverte des autres, la découverte d'autres pays, d'autres cultures, de moi-même aussi. Et puis voilà, la découverte, je dirais ça.
Bonjour, nous accompagnons dans la rue Peggy Derder, historienne responsable des actions éducatives au Musée de l'Histoire de l'Immigration et auteur d'idées reçues sur les générations issues de l'immigration, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Pour vous, l'histoire, c'est une passion ?
C'est une vraie passion. On peut dire aussi une vocation, puisque j'ai commencé par enseigner l'histoire-géographie auprès d'élèves de lycée et puis aussi à l'université, donc... Souvent, on associe ça à une vocation, le fait d'être enseignant, même si ce n'est pas obligatoire. Et puis, j'ai travaillé très vite sur l'histoire de l'immigration, à l'époque où c'était un champ presque en friche. Et donc, oui, on peut parler à la fois de passion et de vocation, oui, je pense. Les deux mots peuvent convenir. C'est une passion parce que c'est difficile à quitter et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir, justement, encore une fois. Et donc fatalement, on associe ça à une passion, et quand on a vraiment très envie de la transmettre, eh bien, c'est aussi une vocation.
On vous a, ou vous vous êtes muséifié ?
Alors l'histoire de l'immigration, oui, elle commence à se muséifier. C'est pas du tout une évidence, parce que effectivement, c'est un objet qui n'est pas figé, c'est un objet qui est toujours en train de se faire, entre guillemets, c'est mal dit, mais... Et patrimonialiser, faire rentrer l'histoire de l'immigration dans le patrimoine, c'est pas une démarche simple. Mais c'est aussi une forme de reconnaissance et de connaissance de l'immigration dans le champ de l'histoire nationale. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait un musée national qui soit consacré à l'histoire de l'immigration dans notre pays.
J'ai interviewé des jeunes qui ont visité le musée de la Porte Dorée et qui disaient « Ah, on était surpris parce qu'il n'y a pas de tableau.
» Mais non, c'est pas un musée comme les autres. C'est souvent ce que nous disent les jeunes. Et d'autres visiteurs aussi. Mais parce que les jeunes ont souvent encore une vision du musée très poussiéreux, figé justement. Et c'est vrai que le musée de l'histoire de l'immigration, c'est pas un musée comme les autres, à la fois parce que son objet, son sujet n'est pas un sujet comme les autres. C'est un sujet qui peut toucher jusqu'à l'intime le plus profond des visiteurs parfois. Et puis parce qu'effectivement, on a voulu volontairement croiser des disciplines, croiser les regards, ceux des artistes contemporains, ceux des témoins, ceux des archivistes, ceux des photographes. Donc oui, c'est pas un musée comme les autres, oui, c'est vrai.
Sous la génération issue de l'immigration, ouais, ça c'est bien ça.
Il a toujours un regard critique,
Calomé. Il faut avoir un regard critique.
Alors qu'est-ce qu'ils disent ?
Alors, justement, une petite présentation.
Qui font beaucoup d'affaires pour les allocations, c'est ça ?
Mais ça, c'est une idée reçue sur les immigrés eux-mêmes, sur les migrants eux-mêmes. Je me suis intéressée aux idées reçues sur leurs enfants, en fait. Sur ce qu'on appelle les descendants d'immigrés administrativement. Et puis au-delà, sur ce qu'on appelle les générations. Parce qu'on entend encore aujourd'hui seconde, troisième, quatrième génération, alors que ce sont des Français. Donc, le sujet du livre, oui, ce sont ces idées reçues, ces stéréotypes sur les très nombreux Français qui ont une histoire intime, familiale, avec l'immigration.
En fait, ce ne sont pas les appellations qui posent problème. C'est ce qu'on en met, c'est l'idée qu'il y a derrière. Les immigrés eux-mêmes, ça ne leur gêne pas parfois de dire « Tiens, je suis algérien », même si ils ont la nationalité française. Ça ne leur gêne pas de dire « Tiens, je suis congolais », même s'ils savent qu'ils ont la nationalité. Alors, derrière, ça renvoie à des références culturelles. C'est pas une sorte d'appartenance nationale, c'est pas dire je me sens plus congolais. Alors, les discours de première, deuxième, troisième génération, parfois c'est pas nécessairement pour écarter les gens, c'est pas une idée d'exclusion, c'est parfois simplement pour poser une problématique. Quand on veut aborder la question de l'immigration, on passe souvent par ces biais-là en disant c'est pas les mêmes difficultés avec telle génération, il y avait telle problématique, la deuxième c'était telle problématique. Parfois c'est pour ça, mais après ça dépend du contexte, ça dépend comment c'est dit, comment c'est reçu aussi.
Oui, exactement, c'est ça. Mais c'est évidemment le sujet du livre. C'est qu'est-ce qui se cache derrière ces appellations. Voilà. Est-ce que on renvoie à des stéréotypes ou non ? Et est-ce qu'on est capable, en fait, de penser ? Vous avez parlé d'identité, d'appartenance. Est-ce qu'on est capable dans notre pays aujourd'hui de penser des appartenances multiples, parce que c'est ça la vraie question aujourd'hui. c'est que la France, elle est diverse, elle est multiple, mais on a encore du mal à penser que les différentes identités peuvent se combiner, en fait.
Oui, donc, que c'est combiné, et puis à l'apprendre de la France, c'est l'étanchéité. Mmh. Et évidemment, on est conscient de ses multiples appartenances, on est conscient de ses multiples influences, mais on aime trop l'étanchéité en France. Mmh. Et, on aime bien les cases. On va te parler de familles monoparentales, comme si c'était une entité homogène avec une réalité identique pour toutes les familles. Et d'emblée, famille monoparentale, ça a une connotation de famille en difficulté. C'est quelque chose que j'ai jamais compris. On va te parler des US, des ZEP et tout. D'emblée, ah, ça doit être une école où il y a beaucoup plus de problèmes. Ah, ça doit être une zone. Alors, la France aime trop les cases et surtout l'étanchéité entre les cases. Et c'est là le problème.
Oui, c'est juste.
Je sous-traite, moi, c'est bien. Hein. Est-ce que tu te sens plus maintenant nantais que français, ou français que nantais, ou breton?
Ça dépend. Au fait, on est plusieurs personnes en une. Il y a des moments où, quand je rencontre des Congolais de Paris, je suis plus nantais que Congolais. Donc, je parle de Nantes avec fierté, je vais narguer les autres villes de France. Quand les compatriotes, voilà, c'est un peu la même chose, les compatriotes qui sont au pays, quand on discute, quand Nantes perd au foot, ils me font des blagues sur Nantes. Donc, du coup, voilà, il y a une multiplicité d'identité, ça dépend des situations, ça dépend comment se présenter. Français, oui, j'aime ça français quand il y a des problématiques un peu générales, quand on parle de la retraite, quand on parle de la loi sur le travail, quand on parle de la loi sur l'immigration. Du coup, mon côté citoyen se réveille en disant, tiens, tu dois avoir un regard, une analyse, une position, une opinion.
Et juste pour terminer, si tu avais un objet à déposer dans un musée qui est consacré à l'histoire de l'immigration, ce serait lequel? Ton objet à toi?
Ça serait un livre racontant mon parcours.
Et tes amitiés avec le président?
Quel président?
Celui qui a fait que tu...
Ah oui, tu sais, dans ce pays-là, le problème, c'est pas l'homme qui a la tête, c'est un système. C'est toujours un système qui pose problème, c'est jamais les gens qui sont en place. Le problème dans ces pays-là, il y a la dictature, c'est pas les dictateurs, c'est les systèmes qui portent les dictateurs et qui arrosent tout en bas. C'est comme en France, le problème, c'est pas la Hollande. Le problème, c'est la gauche.
Quelles questions on pourrait aborder comme ça dans la rue qui soient liées donc à ces idées reçues?
Les idées reçues. Alors, le problème avec la mentalité un peu occidentale, c'est que, particulièrement française, l'idée reçue, c'est forcément négative. En Afrique, l'idée reçue, c'est plus un truc de blagues, de vannes entre ethnies, entre nations. Donc, les Congolais vont recenser les idées reçues sur les Sénégalais juste pour se moquer d'eux. Mais en France, les idées reçues, c'est vraiment pour exclure et pour s'en plaindre et pour se faire peur.
Merci, Calomé.
Je t'en prie, Michel.
Il a abordé beaucoup de choses effectivement intéressantes et qui sont un peu au cœur de l'ouvrage aussi. Cette question des identités, des appartenances multiples, c'est vraiment... c'est aussi ce qui a motivé ce livre, évidemment.
C'était une commande ?
Pas du tout. C'était pas du tout une commande. C'est un livre qui est né d'une réflexion, quoi, tout simplement. Le fait de... On travaille beaucoup quand on travaille sur l'immigration, sur ce dont on parlait à l'instant, les idées reçues, les stéréotypes, les représentations, qu'elles soient positives ou négatives. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses qui circulaient, évidemment, et qu'on commençait à avoir une littérature assez importante sur la question des étrangers, puis des immigrés en France, mais que l'objet, entre guillemets, héritier de l'immigration, ceux qui sont issus de cette histoire, ceux qui la portent en eux ou pas, d'ailleurs, parce qu'on peut aussi rompre avec cette histoire d'une manière ou d'une autre, eh bien, finalement, il y avait relativement peu à la fois d'études scientifiques et peu d'ouvrages de synthèse sur la question. Donc voilà, c'est né de cette observation. La volonté d'écrire cet ouvrage est née de cette observation.
Ça part de la description d'une idée reçue, relais des paroles de chacun et de chacune, et puis après ça déconstruit.
Et oui, ben oui, c'est ça le cœur de l'ouvrage. Évidemment, il ne faut pas rester en surface de l'idée reçue pour dire, pour prouver si elle est reçue ou pas, justement, si elle est... vraie ou fausse, si elle est là pour faire peur ou non, comme le disait notre ami tout à l'heure, il faut la déconstruire. Il faut la déconstruire avec des chiffres, des faits, des références historiques à l'appui. Et voilà, c'est effectivement la démarche de chaque chapitre de l'ouvrage. Donc il peut y avoir, on aborde par exemple la question de l'école, de la réussite scolaire des enfants d'immigrés, cette idée reçue très fréquente sur la délinquance, sur la religion. Enfin voilà, on aborde énormément de choses et on déconstruit, chiffres à l'appui. Lorsqu'il y a des chiffres aussi, parce que c'est une vraie difficulté lorsqu'on aborde ces questions-là, c'est de trouver des sources fiables et des sources scientifiques qui soient solides, parce qu'on a une vraie difficulté en France, en l'absence de statistiques ethniques notamment. Alors le débat, c'est pas faut-il ou non des statistiques ethniques, mais le constat, c'est qu'en l'absence de statistiques ethniques, c'est plus difficile de travailler sur ces sujets-là.
On peut peut-être prendre un exemple, la réussite scolaire, si on la croise avec un autre paramètre qui est la classe sociale, on a tout compris.
Absolument, parce qu'effectivement, on entend souvent dire que l'échec scolaire est le fait d'enfants d'immigrés. L'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, avait d'ailleurs affirmé ça au micro d'une radio. Alors, pas la vôtre, mais au micro d'une autre radio.
Il en existe plein d'autres. Hein.
Voilà. Oui, mais Alternante est tellement formidable.
Ça, vous n'êtes pas obligé.
Non, non, mais je le pense. Oui, donc, on a cette idée reçue selon laquelle les enfants d'immigrés sont en situation d'échec scolaire, en tout cas plus fréquemment, que les autres enfants qui n'ont pas de lien avec l'immigration. Et puis, il y a eu des études qui ont été consacrées à ça. Et on se rend compte qu'effectivement, dans un premier temps, si on voit les choses en surface, les enfants d'immigrés sont plus fréquemment que les autres dits issus de la population majoritaire, comme disent les statisticiens, en situation d'échec. Les rapports PISA, par exemple, menés à l'échelle européenne, le disent. Ils sortent plus souvent également non diplômés du système scolaire. Sauf que il faut croiser les paramètres, c'est-à-dire qu'il faut considérer les catégories socio-professionnelles des parents. Et lorsqu'on étudie les choses, toutes choses égales par ailleurs, comme disent les spécialistes, eh bien on se rend compte que non, les enfants d'immigrés ne sont pas plus en échec scolaire que les autres. Et au contraire, un certain nombre d'entre eux réussissent mieux que les autres. Voilà. Et effectivement, là, le premier paramètre, c'est la catégorie socio-professionnelle des familles, des parents. Et puis, il y a d'autres paramètres qui pèsent énormément dans la réussite ou l'échec des enfants. C'est la taille de la fratrie, la qualification de la mère. Et là, on se rend compte qu'effectivement, en croisant tous ces paramètres et en étudiant les choses à égalité, on va dire, eh bien, les enfants d'immigrés réussissent parfois et souvent mieux que les autres, notamment parce qu'il y a une volonté, un rêve d'ascension sociale qui est extrêmement fort et qui motive fortement la réussite scolaire.
Quelle idée est reçue le public a des artisans maroquiniers ?
Oh, on va dire que maintenant, je pense que c'est même quelque chose qui est national, hein, de consommer local et d'être au plus proche de la personne ou bien qui a réalisé l'objet et d'avoir son ressenti. C'est quelque chose que la population, particulièrement nantaise, a une frénésie pour ça. Et pour nous, c'est toujours... Oui, on vit de ça, donc on vit des gens qui sont dans une démarche autre que le produit de masse.
Quelle idée reçue vous avez des Parisiens, des Parisiennes ?
Oh là, des Parisiens ou des Parisiennes, on va dire qu'ils sont faiseurs de mode, donc on est obligé parfois de suivre. Et artistiquement, ils ont une chance d'être dans une capitale qui est une autre capitale et que dans le domaine artistique, oui, ils sont toujours plus vus que nous, mais on suit. Mais par contre, dans les années qui suivent, on va leur faire comprendre aussi qu'en province, ça peut partir d'ici pour Paris.
Une idée reçue, c'est positif ou négatif ?
L'idée reçue, oh, je vais dire en général, ça va être peut-être négatif, mais dans les individualités, on va juger en individualité. Je veux dire, le sourire de madame fait que je peux avoir une bonne image de Paris.
C'est très sympa.
Vous n'êtes pas né à Paris ?
Je suis né en banlieue parisienne.
Ah oui. Je m'en pousse, je dis ah oui d'ailleurs. Nous accompagnons dans la rue Peggy Derder, auteur d'idées reçues sur les générations issues de l'immigration, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Les idées reçues, tout le monde en a sur tout le monde ?
Bien sûr, on est tous porteurs d'idées reçues. C'est aussi pour ça qu'il faut les interroger toujours, parce que c'est une... une remise en question des idées reçues telles qu'elles circulent dans la société, mais une remise en question de soi-même aussi, de notre propre façon parfois de penser. Ça permet de penser vite, de réagir vite, mais oui, on est tous porteurs d'idées reçues, évidemment.
C'est-à-dire qu'on peut avoir les idées reçues sur ses propres enfants.
C'est des petits bruits, hein, je les entends. Vous caressez votre cuir.
On va dire que
cuir.
C'est... Ben oui, c'est quelque chose à regarder de près. De toute façon, moi, je pense que à la rencontre, je pousserai à lire.
Vous avez été victime de paroles ou d'actes racistes ?
C'est un fait. Je veux m'exprimer à ce sujet-là, mais ça va être une minorité. Oui, j'ai été victime par plusieurs fois du rejet. Je sais pas, moi, je n'arrive pas à définir, moi, proprement, homme, le mot raciste, c'est que ça veut dire. Mais moi, je veux parler du rejet de l'autre. Voilà. Après, si on le définit comme du racisme, après, je ne sais pas. Mais le rejet en soi-même, oui, je l'ai vécu avec la couleur de peau que j'ai. Je l'ai reçu de notre société. Mais après, quand on positive les choses, on voit ça du côté de la bêtise et puis on avance.
C'est une idée reçue que de dire que les hommes, au fond, ont un fond raciste.
Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le racisme n'a pas disparu de notre société. Et ça, ce n'est pas une idée reçue, c'est un fait. Quand on vérifie, encore une fois, de manière très, très froide, presque scientifiquement, l'état du racisme dans notre pays et l'état des discriminations qui en découlent, parce que le racisme, c'est non seulement être victime de rejet, mais c'est aussi derrière, dans le quotidien des hommes et des femmes qui en sont victimes, subir des discriminations à l'embauche, à l'accès au logement, à l'accès aux loisirs, etc. Enfin, ça marque dans la chair, dans sa propre identité, et puis ça marque dans son quotidien, dans son vécu, et dans sa possibilité de vivre quotidiennement comme un citoyen, comme, évidemment comme les autres. Donc c'est pas une idée reçue de dire qu'il y a du racisme en France. C'est malheureusement une réalité.
C'est vrai que c'est une réalité de notre quotidien. Et du quotidien, hein, de l'autre, hein, qu'en soit noir ou blanc, qui peut avoir, c'est-à-dire que ce rejet-là qui est profond en soi-même, c'est-à-dire c'est un rejet qu'on te demande, c'est-à-dire que de changer, de ne pas, c'est comme si toi, ta personne, l'identité en soi qui est en vous, c'est pas celle-là qu'il faut pour être homme. Donc en fait, je pense que c'est un sentiment que quand on reçoit ces chocs-là, c'est très dur. Mais pour ma part, je veux dire, si je veux parler pour ma part personnellement, je pense que socialement aujourd'hui, je me suis retrouvé. Ce qui fait que je pense que j'ai du mal même à croire que j'ai déjà vécu ça. Voilà, donc je suis dans l'autre côté de la barrière. Donc je ne sais pas si je vais appeler ça chance, ça veut dire que mon interlocuteur qui est en face, il vient parce que je suis d'abord tel, c'est-à-dire que ma couleur de peau, elle n'est pas visible, mais il y a eu des efforts avant ça, beaucoup d'efforts. Et je pense qu'il y a certaines qui sont plutôt psychologiquement ou moralement faibles, notre société, et qui empathisent et que ça devient autre chose. Mais peut-être pour ma part, j'ai eu la chance et l'opportunité de passer de l'autre côté. Donc aujourd'hui, sincèrement, je peux vous dire, je ne le sens pas parce que je n'habite pas où quand on habite, on le sent la même chose. Je ne dépends pas de l'autre. Donc quand on ne dépend pas, on ne le sent pas. Donc pour ma part, je vais toujours avoir quelque chose qui risque de ne pas être objectif parce que maintenant, je ne le sens plus. Mais je l'ai senti auparavant.
En fait, il n'y a pas lieu de parler de génération. Parce que soit on est immigré, soit on ne l'est pas. Donc, quand on est immigré, si on est une personne qui est née en dehors des frontières de la France, on est né à l'étranger, on a franchi la frontière, on s'est installé en France, et soit on a acquis la nationalité française, mais on est toujours immigré, parce qu'on a toujours franchi cette frontière, soit on est resté de nationalité étrangère. Donc ça, c'est être immigré. Ensuite, si vous avez des enfants nés en France qui ont la nationalité française, comme c'est généralement le cas, c'est quasiment toujours le cas en vertu du droit du sol, eh bien, vos enfants sont français. Des raisons pratiques et puis aussi pour désigner des phénomènes. Parce que les descendants d'immigrés n'ont pas forcément les mêmes trajectoires que la population dite majoritaire, le même vécu. On parlait de racisme ou de discrimination, ils peuvent en être victimes bien que français. Mais en réalité, parler de génération, finalement, ça n'a pas tant de sens que ça. Voilà. Alors, quand on parle en plus de troisième, quatrième génération, bah, quand est-ce que ça s'arrête ? Voilà, c'est ça la question. Et puis à quel moment est-ce qu'on renvoie toujours à une forme d'altérité ? Parce que c'est ce qui se cache derrière, c'est un renvoi à une autre altérité. C'est l'impossibilité de penser la personne, de se représenter comme uniquement français, comme français à part entière en tout cas. Et on peut être français et être riche d'influences multiples et d'appartenances multiples. Un Français dit issu de l'immigration, s'il a une couleur de peau qui n'est pas blanche, s'il a des signes extérieurs d'altérité, on va dire, pour aller vite, mais on va lui poser la question, tu viens d'où ? Et puis s'il répond bah, de Nantes ou de Bourgogne, on va lui dire, non, mais pour de vrai, tu viens d'où ? Donc oui, c'est une bonne question, d'aller voir une personne qu'on peut identifier comme français dit de souche, même si ça n'a pas de sens, et de lui poser cette question. Et on se rend compte que, du malaise, quoi. Que ça n'a pas tellement de sens, tout ça.
Et vous faites partie du quart des Français qui, en remontant dans son arbre généalogique, trouvent des racines étrangères ?
Oui, bien sûr. Oui, c'est mon cas. Vous voulez que j'explique ? Ouais. Moi, mon père est né en Algérie. Il est algérien. Donc, il est devenu français. Par acquisition, comme on dit. Mais mon papa, donc, est algérien. Voilà, tout simplement. Donc, je fais partie du quart des Français qui sont issus de l'immigration. Voilà. Je suis descendante d'immigrés au sens propre du terme, au sens administratif du terme.
Le patronyme pour une femme, ça peut être celui de...
Alors, c'est pas mon cas. Moi, j'ai toujours mon patronyme de naissance, mon nom de naissance, comme on dit. Mais le mien, c'est pas un marqueur fort, on va dire. Et puis
Pourquoi vous avez crié fort sur le mot fort ?
Parce qu'il y a une mobilette oreilles. Qui est passée en même temps, excusez-moi.
Les oreilles.
Pardon. Oui, et c'est vrai que pour les femmes, et ça se vérifie d'ailleurs dans la mesure des discriminations, quand on est issu d'un couple dit mixte, c'est aussi une appellation assez drôle quand on y pense, quand on est issu d'un couple dit mixte, si c'est le papa qui est français, on se rend compte que l'enfant subit moins de discrimination parce que le patronyme est français et donc il est protecteur. Voilà, et les femmes aussi peuvent être, de par leur nom d'épouse, pour celles qui choisissent de se marier, protégées par un patronyme identifié comme français.
Comme quoi ?
Comme quoi. Mais oui, les discriminations au patronyme, malheureusement, existent, bien évidemment. Et peuvent être fortes et elles sont mesurables. Arrêtez avec le violon.
Merci à Peggy Derder, auteur d'idées reçues sur les générations issues de l'immigration parues aux éditions Le Cavalier Bleu, et merci à Calomé et à Gilles pour leur libre participation à ce reportage réalisé avec la complicité du Centre interculturel de documentation.
Qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'interview en marchant dans la rue ?
C'est un exercice que j'avais jamais fait. Et je trouve ça très intéressant parce que répondre aux questions, être interviewé pendant une promenade, une déambulation dans une ville qu'on ne connaît pas très bien, moi je ne connais pas très bien Nantes, c'est intéressant parce que ça change votre manière de répondre et de réfléchir aussi. Donc c'est pas mal.